RFI, les 23h à Mindelo et à Abidjan, minuit ici à Paris. Bonsoir Gali Bonin, c'est à vous pour le journal.
Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous. À la une de ce journal, des premiers signes de résistance contre l'administration Trump aux États-Unis. Un juge américain suspend un décret du nouveau président. Moscou accuse le coup mais ne bronche pas. Selon le Kremlin, les menaces américaines d'imposer de nouvelles sanctions ne changent rien aux relations entre les deux pays. Au sommaire également, le président argentin qui se félicite d'une internationale anti-wokiste. Extrait de son discours à Davos dans ce journal. À Mayotte, l'eau potable devient une denrée rare. Entre rationnement et augmentation des prix, la population peine à trouver à boire. Et c'est une première en Asie du Sud-Est, le mariage homosexuel légalisé en Thaïlande. Ils ont été des milliers à en profiter dès ce jeudi. Aux États-Unis, premier coup de frein aux nouvelles politiques de Donald Trump. Un juge américain a suspendu temporairement la remise en cause du droit du sol ordonné par le nouveau président. Le magistrat parle d'un ordre manifestement inconstitutionnel. La Maison-Blanche va porter la décision en appel. Le droit du sol est garanti par la Constitution américaine depuis plus de 150 ans. Un droit sur lequel Donald Trump a voulu revenir lundi avec la signature d'un décret présidentiel. C'était une réaction attendue après les menaces de nouvelles sanctions brandies par Donald Trump, celles du Kremlin. La Russie, restée silencieuse jusqu'à présent, minimise les déclarations du nouveau président et se dit prête à dialoguer avec lui. Les précisions de Daniel Valo.
En Russie comme ailleurs dans le monde, les moindres déclarations de Donald Trump sont scrutées et analysées avec beaucoup d'attention. Et c'est ce qu'a reconnu ce jeudi le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov, interrogé sur les menaces de sanctions formulées par le nouveau président américain, a d'abord pris soin de rappeler que Donald Trump, durant son premier mandat, avait déjà utilisé la méthode des sanctions à l'encontre de la Russie. Rien de nouveau donc, et rien de réellement inquiétant aux yeux du porte-voix de Vladimir Poutine.
Nous observons très attentivement les déclarations et la rhétorique utilisées. Nous faisons attention à toutes les nuances et nous restons prêts au dialogue. Le président Poutine l'a dit à plusieurs reprises, un dialogue d'égal à égal et dans le respect mutuel. Nous attendons les signaux, mais nous ne les avons pas encore reçus.
Donald Trump a dit plusieurs fois qu'il était prêt à une entrevue avec le président russe, mais sans donner pour l'instant de date ou d'échéance. Après avoir promis de régler en 24 heures la guerre en Ukraine, le nouveau président américain se montre moins pressé d'agir dans ce dossier qu'il ne l'a été au Proche-Orient. En tout cas, il reste toujours aussi flou sur ses intentions, n'ayant rien annoncé de tangible à ce stade, notamment sur l'aide militaire apportée par les États-Unis aux Ukrainiens.
Daniel Valo, Donald Trump qui a pris la parole jeudi au Forum mondial de Davos en Suisse. Dans un discours en visioconférence, le président américain a appelé les industriels à venir s'installer en Amérique ou à se préparer à payer des droits de douane, une invitation aux airs de menace. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump affiche son intention d'augmenter les taxes à l'importation pour la Chine, l'Union européenne ou encore pour ses voisins, le Mexique et le Canada. Le Canada, qu'il a de nouveau incité à devenir le 51e État des États-Unis. De cette façon, explique-t-il, nous n'aurons pas à vous imposer des tarifs douaniers. Et c'est un des plus fervents soutiens de Donald Trump en Amérique latine. Le président argentin Javier Milei, qui était à Davos au rendez-vous annuel des élites économiques mondiales, dans un discours, le chef d'État ultra-conservateur a dénoncé ce qu'il appelle le cancer du wokisme. Et selon lui, il n'est pas le seul à s'engager dans cette lutte.
Je ne me sens pas seul, car tout au long de cette année, j'ai pu trouver des compagnons dans le combat pour les idées et la liberté aux quatre coins de la planète. Du merveilleux Elon Musk à la farouche italienne, ma chère amie Giorgia Meloni, de Bukele au Salvador, à Viktor Orban en Hongrie, de Benjamin Netanyahou en Israël, à Donald Trump aux États-Unis. Une alliance internationale s'est lentement formée entre toutes les nations qui veulent être libres et qui croient aux idées de la liberté.
Le président argentin Javier Milei. Les Nations Unies se disent alarmées par l'offensive du M23 en République démocratique du Congo. Ces rebelles, soutenus par le Rwanda voisin, ont effectué une percée dans le nord et le sud Kivu, forçant la fuite de milliers de personnes. Le M23 a notamment fait reculer l'armée congolaise autour de la ville de Goma, dans cette région minière de l'est de la RDC. Une intensification des combats qui fait craindre à l'ONU le risque d'une guerre régionale. Au Proche-Orient, des centaines de Palestiniens ont fui le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée sur ordre de l'armée israélienne. Une évacuation qui se fait surtout à pied. L'autorité palestinienne affirme que les troupes ont rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp de Jenin. L'opération Mur de fer, déclenchée il y a 3 jours, a fait au moins 12 morts. Son objectif, éradiquer le terrorisme dans cette ville de Cisjordanie, a expliqué le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Branle-bas de combat dans le nord de l'Europe avant le passage de la tempête Eowyn. L'Écosse et l'Irlande ont été placés en alerte rouge. Des vents pourraient dépasser les 130 km/h vendredi. 4,5 millions de personnes vivent dans les zones à risque qui s'attendent à un événement météorologique d'une rare violence pour cette région du monde. À Mayotte, la tempête, elle, est passée, mais ses conséquences se font toujours sentir. Plus d'un mois après le passage du cyclone Chido, le Parlement français a voté mercredi la loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. Dans le département d'outre-mer, une autre urgence, celle de l'accès à l'eau potable. La population peine à en trouver entre le rationnement des bouteilles dans les supermarchés et l'explosion des prix. Reportage par notre correspondante sur place, Justine Rodier.
Les rayons de ce supermarché de la commune de Pamandzi en Petite Terre sont pleins à craquer. Tout le monde patiente, comme Faïza, 22 ans.
Là, actuellement, on attend l'eau, ça fait déjà 3 heures de temps, je pense.
Et pas sûr d'être servi, s'inquiète Fatima, 43 ans.
On attend en espérant avoir juste un pack d'eau, juste ça. On sait pas.
Chaque personne ne pourra prendre qu'un pack de 6 bouteilles qui sera vite évaporé, déplorent les clientes. Compte tenu de la chaleur écrasante de l'île, désormais dépourvue d'arbres, dans les rayons, la tension est palpable.
Des fois, on se bat même pour avoir de l'eau.
Un arrêt préfectoral soumet les commerçants à un bouclier tarifaire. Le pack ne peut normalement pas être vendu plus de 6,30 euros. Cette enseigne le respecte, mais les boutiques de proximité facturent parfois 12 euros le pack d'eau. Fatima ne se fait plus d'illusions.
On ne regarde même pas le prix, parce que si on regarde le prix, on ne va pas boire.
Le cyclone dévastateur de décembre n'a rien arrangé à la situation de Mayotte, mais les difficultés pour trouver de l'eau potable existent depuis des années.
Ça fait au moins un an et demi que c'est comme ça, voire 2 ans que c'est comme ça dans ce magasin.
La population, notamment la plus précaire, n'y a pas accès. Justine Rodier, Pamandzi, RFI.
En France métropolitaine, l'auteur de l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo a été condamné à 30 ans de prison ferme. En septembre 2020, l'homme aujourd'hui âgé de 29 ans avait tenté de tuer 2 personnes, croyant s'en prendre aux salariés du journal satirique. Mais Charlie Hebdo avait pourtant quitté ses bureaux après l'attaque de 2015. L'assaillant, un ressortissant pakistanais, a été reconnu coupable de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. En Thaïlande, près de 2000 couples LGBT ont défilé devant des célébrants jeudi. Pionnière dans la région, ce pays d'Asie du Sud, du Sud-Est, est une des premières à légaliser les mariages entre personnes de même sexe. Un tournant et une décision historique saluée par les militants et les défenseurs des droits humains. Les précisions de Yelena Tomic.
C'est un grand jour de fierté pour les couples de même sexe qui vont enfin pouvoir sceller leur union suite à l'adoption de la loi en septembre autorisant les personnes LGBTQ à se marier légalement. La nouvelle législation qui entre en vigueur ce jeudi prévoit le remplacement dans le code civil des mots homme et femme et époux et épouse par des termes plus neutres tels que personne et époux, ce qui garantit aux couples mariés de même sexe les mêmes droits juridiques, financiers et médicaux qu'aux couples hétérosexuels mariés. Se marier sous la nouvelle loi signifie aussi que le couple pourra désormais enregistrer sa propriété et accéder à des hypothèques conjointes. Malgré une réputation de société tolérante vis-à-vis des identités de genre et de pays pionniers en termes de droits LGBTQ+, la Thaïlande devient le 3e pays asiatique à autoriser le mariage entre personnes de même sexe après Taïwan et le Népal, mais le 1er en Asie du Sud-Est, région où de nombreux pays continuent d'imposer des restrictions sévères à ces communautés.
Six mois après les JO de Paris, Victor Wembanyama revient victorieux dans la capitale française. L'étoile montante du basket était à l'Accor Arena jeudi soir pour une rencontre délocalisée de la NBA. Menée par le joueur français, les Spurs de San Antonio ont dominé les Pacers de l'Indiana 140 à 110. Un affrontement qui a attiré 16 000 spectateurs à Paris.